Première épître de Pierre. Nous allons lire les 9 premiers versets. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Prions. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, encore une fois ce matin, nous voulons te remercier. Te remercier pour cette parole, Seigneur. Cette parole qui vient directement du ciel. Cette parole, Seigneur, que tu as transmise à des hommes qui l'ont couchée par écrit, afin que nous puissions, Seigneur, découvrir l'amour que tu as eu pour chacun de nous à travers la personne de Jésus-Christ. Seigneur, merci aussi pour ta miséricorde. Merci pour ta loyauté, ta fidélité, ta bonté. Merci pour ta grandeur, Seigneur. Tu es grand par ta puissance et ta grandeur nous échappe. Et Seigneur, nous voulons ce matin, par le Saint-Esprit que tu as déposé dans le cœur de tous ceux qui croient en toi, que tu puisses nous parler, que tu puisses nous encourager, nous fortifier, nous reprendre s'il y a lieu. Mais surtout, Seigneur, que tu puisses être élevé. Et que là-haut dans le ciel, Seigneur, tu puisses te réjouir que ton peuple plonge son regard dans ta parole ce matin, parce que ton peuple veut progresser dans sa connaissance et dans la foi de la personne de Jésus-Christ. Et c'est en son nom que nous te prions. Et le peuple de Dieu dit Amen. Saviez-vous, frères et sœurs, qu'avant la fondation du monde, Dieu avait un plan pour vous? Extraordinaire, ce nom. Dieu avait un plan pour chacun de nous. Il vous a créé pour que vous soyez saints et irréprochables devant lui, nous dit la parole. Et ce, afin que vous deveniez son ambassadeur ou son représentant sur terre. Ce qui est extraordinaire quand on parle d'ambassadeur, c'est que lorsqu'un gouvernement, peu importe le gouvernement dans le monde, lorsqu'on choisit un ambassadeur, c'est que on choisit quelqu'un qui croit vraiment à 100% en son pays, qui croit vraiment à 100% aux valeurs de son pays, qui est irréprochable en tant qu'individu. Pourquoi? Parce que cette personne-là, on va l'envoyer à l'extérieur du pays pour représenter le gouvernement. Je connais pas les ambassadeurs belges, mais j'ai rencontré les ambassadeurs canadiens, et j'ai rencontré les ambassadeurs américains, et je peux vous dire une chose, si vous leur parlez, il n'y a pas d'autre meilleur royaume que le Canada et les États-Unis, quoi. Donc, je présume qu'en Belgique, ça doit être la même chose. Les ambassadeurs doivent croire que le meilleur pays au monde, c'est la Belgique, même si c'est un petit pays. Hein. C'est pas la grandeur du pays qui fait nécessairement sa force. Et Dieu, c'est un peu la même chose. Dieu nous appelle à être des ambassadeurs. Et lorsque le Seigneur lui dit « Soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel », il peut envoyer des gens qui correspondent finalement en tant qu'ambassadeurs, qui correspondent à son caractère à lui, le caractère de Jésus-Christ. Lorsque les gens rencontrent un ambassadeur, lorsque les gens rencontrent un chrétien qui est ambassadeur de Jésus-Christ, qui représente le royaume de Dieu, eh bien, à travers lui, ils doivent saisir qu'il n'y a pas d'autre royaume qui vaut mieux que celui que cette personne représente, et c'est le royaume de Dieu. Et pour y arriver, eh bien, le Seigneur, à travers la première épître de Pierre, va nous parler de justification, il va nous parler aussi de sanctification, et il va nous dire que c'est le travail de toute une vie que le Seigneur va s'appliquer, va s'employer à faire dans chacune de nos, dans nos personnes. Dieu vous a créé pour que vous reflétiez, ou Dieu nous a créé pour que nous reflétions sa gloire, son caractère, sa justice et sa sainteté. Quel contrat, n'est-ce pas? Quel contrat? Prendre des pécheurs qui ont un cœur complètement tortueux, qui veulent rien savoir de Dieu, qui vivent pour eux-mêmes, qui ont un cœur égoïste, et à travers le miracle de la nouvelle naissance, les amener à mettre cet égoïsme de côté, leur donner un nouveau cœur qui va devenir un cœur bienveillant, c'est-à-dire qui va aspirer à veiller au bien des autres à travers le caractère de Christ, c'est-à-dire en manifestant de la bonté, en manifestant aussi cet amour qu'ils ont reçu de Jésus-Christ auprès de ceux, même de leurs ennemis, et auprès de ceux qui les persécutent. Passez un instant, être représentant du roi des rois et du seigneur des seigneurs est un aspect de votre raison d'être sur la terre. Et cette nouvelle, elle devrait vous inciter à vous comporter différemment, en actes et en paroles, et entre autres à mieux choisir vos lieux et vos occupations. L'apôtre Pierre, ici, s'adresse à des chrétiens qui vivent, il dit, en exilés, et qui sont dispersés un peu partout à différents endroits. Et la description que Pierre fait des chrétiens implique qu'ils sont non seulement des étrangers sur cette terre, mais des voyageurs, des gens qui appartiennent à un autre royaume, qui habitent dans un pays qui n'est pas le leur, qui possèdent une autre culture que celle du monde, et qui sont dispersés à droite et à gauche, comme on dispersait la semence dans un champ à cette époque-là. Et le pays ou le royaume auquel appartient le chrétien ne se trouve pas sur la terre parce qu'il est citoyen du ciel, et que sa demeure se trouve là-haut. Il peut vivre dans le monde, nous dit Jésus, mais il n'y a rien en commun avec le monde. Et par conséquent, en tant qu'étrangers exilés sur la terre, ils doivent s'abstenir des convoitises charnelles, c'est-à-dire des désirs humains, nous dit l'apôtre Pierre ici, qui font la guerre à l'âme dans 1 Pierre chapitre 2, verset 11. Et nous pourrions penser qu'étant donné que les chrétiens sont des étrangers et des exilés dispersés dans ce monde, eh bien, ils font pitié et ils sont à plaindre, mais ce n'est pas le cas. Car malgré le fait qu'ils sont étrangers dans ce monde, ils font partie des élus de Dieu. Frères et sœurs, vous êtes des élus de Dieu. C'est pas extraordinaire? Vous êtes des élus de Dieu. Vous êtes des élus de Dieu. Quand vous votez aux élections, vous votez pour un politicien ou vous votez pour un parti qui pense à peu près comme vous. Quoique ça commence à être de plus en plus difficile aujourd'hui, on essaye de voter pour quelqu'un qui représente les valeurs auxquelles on appartient. Et le Seigneur a fait de vous des élus. Et son mandat, c'est d'amener son peuple, cette race élue, nous dit Pierre, à avoir les mêmes valeurs que les siennes, à penser exactement comme lui, pour faire en sorte de le représenter partout sur la terre. Vous avez été élus. Ça, c'est extraordinaire. Et le mot « élu » ici signifie « choisi ». Je ne tomberai pas dans le piège de rentrer dans la théologie calviniste ou arménienne ce matin, je vais m'en tenir à la théologie biblique. Personnellement, je vais vous donner mes couleurs. Je ne crois pas que Dieu a créé des gens pour aller en enfer et je ne crois pas que Dieu a créé des gens pour aller au ciel. Je crois que Dieu veut que tous parviennent à la repentance. Et mon verset, pourquoi je ne pense pas que Dieu a créé des gens pour aller au ciel ni en enfer, c'est dans 1 Jean chapitre 2, verset 2. J'arrive d'Angleterre et je dois vous dire qu'il y a des calvinistes et des hyper-calvinistes à satiété. Et moi, le verset qui me réconforte, c'est 1 Jean chapitre 2, verset 2, qui dit que Jésus-Christ est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, donc soi-disant pour les prédestinés. Mais là, ce qui est intéressant, regardez ce qu'il rajoute, et pas seulement pour les prédestinés, mais pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Alors, Christ est mort pour tous. Christ veut que tous parviennent au salut. Le Seigneur veut que tous parviennent au salut. Et je suis d'accord avec John Wesley, lorsqu'il dit que cette doctrine, des uns qui sont créés pour aller là et les autres qui sont créés pour aller là, il dit que cette doctrine est en train de dire que si quelqu'un qui entend l'Évangile voudrait vraiment se convertir, eh bien, c'est pas le diable qui l'empêcherait d'accepter le Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui empêcherait cette personne-là d'être sauvée parce qu'elle est prédestinée à aller en enfer. Et John Wesley, pour lui, dit que c'est une doctrine démoniaque. Et je suis entièrement d'accord avec lui. Moi, ça me heurte au niveau de la justice et de l'amour de Dieu. Mais on est élus, et je pense que Dieu veut qu'il y ait le plus grand nombre d'élus dans cette génération qui puissent faire partie de son royaume. Et la seule façon d'attirer les gens à lui, c'est de proclamer l'Évangile. C'est qu'en tant qu'ambassadeur, nous puissions vraiment prêcher ce que nous avons reçu de lui et que nous puissions manifester en témoignage, le témoignage vivant non seulement de ce que nous avons reçu dans l'Évangile, mais de ce que le Seigneur nous donne jour après jour. On constate premièrement ici qu'en tant qu'élus de Dieu, eh bien, on faisait partie du plan que Dieu a établi d'avance. Pierre écrit ici au verset 2, la première partie du verset 2, que que nous sommes des élus selon la préscience de Dieu. Et le mot préscience ici signifie prévoir d'avance. Il y a l'omniscience de Dieu, Dieu connaît toutes choses, Dieu se promène dans l'éternité. mais aussi la préscience de Dieu. Et dans sa préscience, Dieu pouvait dire, j'ai aimé Jacob, j'ai détesté Ésaü. Dans sa préscience, Dieu pouvait le faire. Et le mot, c'est, et en d'autres mots, nous sommes les élus choisis de Dieu parce que cela correspond au plan que Dieu a planifié d'avance. Dieu sait toutes choses avant même qu'elles n'arrivent et il s'était fixé d'avance comme but de sauver les hommes à travers l'annonce de l'Évangile. Et Paul va exposer ce plan prévu d'avance par Dieu dans Éphésiens. Je vous invite à tourner avec moi dans Éphésiens, chapitre 1, verset 4. Et il nous dit à quel moment Dieu a conçu ce plan. Regardez d'un doigt dans Éphésiens, chapitre 1. Regardez d'un doigt dans Genèse, chapitre 1. Verset 3. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. » De toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. « En lui, Dieu nous a élus. » À quel moment, frères et sœurs? Avant la fondation du monde. Genèse, chapitre 1, verset 1. « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Dieu crée le monde visible. J'en ferai pas un dogme. Personne ne peut me contredire non plus. Je pense qu'avant Genèse, chapitre 1, verset 1, Dieu avait créé les anges, le monde spirituel. Et avant même la fondation du monde, avant même de créer ce monde visible que nous voyons, eh bien, Dieu avait prévu d'avance de faire de vous et de moi des élus. Dieu avait prévu d'avance d'envoyer Jésus-Christ pour prêcher, pour venir mourir sur la croix pour chacun de nous. Dieu avait prévu d'avance que nous puissions entendre l'Évangile et passer des ténèbres à la lumière. Dieu avait prévu d'avance. Vous savez ce que ça veut dire? C'est que si c'était prévu avant la création des choses visibles et qu'on rentre dans le domaine de l'éternité, parce que le monde invisible, c'est l'éternité, le temps commence à partir de la création, de ce qu'on voit, le temps commence, les mois, les années, les semaines, et ainsi de suite. Ça veut dire que Dieu vous a aimé depuis toute éternité. Et c'est ce que Jérémie et Isaïe disent, « Je vous aime d'un amour éternel. » Ça veut dire, frères et sœurs, que Dieu, en aucun moment dans son existence, a commencé à vous aimer, il vous a toujours aimé. C'est extraordinaire. Dans sa préscience, en sachant d'avance tous les péchés que vous alliez commettre, en sachant d'avance quelle sorte de vie misérable on était pour aller vivre, pour vivre, Dieu vous a toujours aimé. On est incapable de comprendre cet amour. Parce que nous, on n'aime pas souvent, tant aussi longtemps qu'on n'a pas rencontré les gens, je parle dans le monde, on rencontre quelqu'un, on dit « je tombe en amour », on rencontre quelqu'un, j'ai des affinités avec cette personne-là, et là, il y a quelque chose qui commence à l'intérieur de notre cœur. Mais la parole nous dit que Dieu vous aime d'un amour éternel, et ça, c'est extraordinaire. Avant la création du monde, avant même avoir fondé la terre, le ciel, l'univers, Dieu vous aimait d'un amour éternel. Dieu vous avait choisi, avant même la fondation du monde, que vous puissiez lui appartenir. Avant même la fondation du monde, Dieu vous avait choisi pour que vous passiez l'éternité avec lui, dans le royaume qu'il est en train de nous préparer. Difficile à comprendre, mais c'est extraordinaire quand on saisit ça, quoi. Humainement parlant, c'est difficile à comprendre. Parce que nous, on rentre dans le domaine de Dieu, on rentre dans le domaine de l'éternité. Nous, on est des mortels. On vit avec les jours, on vit avec les mois, on vit avec les années. Mais là, on parle de quelqu'un qui est non seulement immortel, mais qui est éternel, qui n'a pas eu de commencement, qui n'a pas eu de fin. Et parce qu'il n'a pas eu de commencement, non seulement il n'a pas eu de commencement, il n'a pas eu de fin, mais son amour pour nous est éternel, frères et sœurs. C'est merveilleux, c'est extraordinaire. Il a voulu qu'il en soit ainsi, et il veut que ceux qu'il a choisis soient, verset 4, « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Dans son amour, il a décidé par avance qu'il nous adopterait. » Verset 5. « En faisant de nous ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Et il a voulu parce que cela lui plaisait, nous dit le texte. Parce que cela lui faisait plaisir. Selon le bon plaisir de sa volonté, dans Louis II. Parce que cela lui faisait plaisir. Frères et sœurs, le Seigneur aurait pu vivre, continuer à vivre toute l'éternité tout seul avec la Trinité. Hein? Dieu, ce n'est pas un dépressif. Hein? Dieu, ce n'est pas un gars qui a une tendance suicidaire. Hein? Dieu aurait pu très bien vivre tout seul, il aurait pu très bien se passer de nous. Mais il a décidé d'avance de faire en sorte qu'on participe, qu'on devienne ses enfants par adoption et qu'on participe à l'avancement de son royaume sur la terre. Et qu'on vive avec lui pour l'éternité. Essayez de comprendre ça. Alors que nous étions encore pécheurs, ennemis de Dieu, Christ est mort pour nous. En sachant tout ce qu'on aurait on ferait sur la terre, connaissant notre existence d'avance, en aucun temps cela diminue l'amour que Dieu a pour chacun de vous. Essayez de comprendre ça. Et ça, c'est le mandat que Dieu nous donne dans l'Église de développer. S'il y a une sœur qui ne nous regarde pas quand elle rentre un dimanche, si un frère rentre ici dimanche et qu'il ne nous regarde pas, ne pensons pas qu'il ne nous aime pas. Ne pensons pas qu'il aime quelqu'un d'autre plus que nous parce qu'il est allé saluer quelqu'un d'autre plutôt que nous. Dieu veut nous montrer des choses à travers ça. Dieu veut nous faire grandir. Dieu nous connaît. Et heureusement que dans son cœur, Dieu ne fait pas de favoritisme. Heureusement que Dieu nous aime tous d'un amour égal. Heureusement que quand nous commettons une bêtise, quand nous commettons un péché, Dieu ne nous aime pas moins. Et heureusement que quand nous travaillons à l'avancement de son royaume, Dieu ne nous aime pas plus. Son amour envers nous est invariable. Son amour envers nous ne change pas. Quel Dieu merveilleux nous avons. On ne peut pas trouver ça dans le monde. Parce que ça fait partie d'un autre monde. Ça fait partie du monde céleste. Et frères et sœurs, ce matin, vous n'appartenez plus à aucun pays. Vous êtes citoyens des cieux. Vous êtes citoyens célestes. Votre carte d'identité, c'est une carte d'identité qui vient du ciel. Paul nous dit ici, afin que nous servions à célébrer sa gloire, c'est-à-dire que nous pratiquions des œuvres qui démontrent que nous l'appartenons vraiment. Et frères et sœurs, quand on parle de la gloire de Dieu, qu'est-ce que c'est? Dieu veut que vous manifestiez sa gloire à travers vous. Et ça correspond à trois choses. Il veut manifester sa présence à travers vous. Il veut manifester sa puissance à travers vous. Et il veut manifester son caractère à travers vous. Ça, c'est les trois choses qui englobent la gloire de Dieu. Premier miracle que Jésus a fait à Cana, qu'est-ce qu'on a dit? Dieu a manifesté sa gloire à travers le miracle que Jésus a accompli. Dieu a manifesté sa puissance et sa présence à travers la personne de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, c'est pas moi qui le dis, c'est Paul qui le dit. Dieu veut manifester sa gloire à travers ses enfants. Quoi. C'est extraordinaire, quoi. Hey, extraordinaire! C'est pourquoi, frères, efforcez-vous. 2 Pierre 1, verset 10, 11. C'est pourquoi, frères, efforcez-vous encore plus de vous attacher solidement à l'appel que Dieu vous a adressé et au choix qu'il a fait de vous. Hein? Élus, vous êtes élus. Car si vous agissez de cette façon, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi que vous sera largement accordé le droit d'entrer dans le royaume de Dieu, de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Ça me rend souvent triste, moi, quand il y a des chrétiens, par rapport à ce qui est écrit dans les Écritures, qu'il y en a qui vont passer comme à travers le feu. Il y a des chrétiens qui se contentent d'avoir un pied dans le monde, un pied dans l'Église, en se consolant que parce qu'ils ont levé la main un jour, qu'ils ont accepté Jésus-Christ, eh bien, c'est pas grave, moi, je vais être accepté, je vais passer à travers le feu. Il faut relire le passage, hein, ça concerne pas le salut. Hein. Excusez, ça n'exclut pas l'obéissance. Hein. Je regrette. Hein. Celui qui va être passé comme à travers le feu, là, c'est celui qui se contente de placer son fessier semaine après semaine dans l'Église et qui se contente d'attendre le retour de Jésus-Christ et qui met pas au service de l'Église les dons que Dieu lui a donnés. Mais ça n'exclut absolument pas l'obéissance. Absolument pas. Il y a des gens qui se leurrent, il y a des gens qui se séduisent à penser qu'à vivre dans le monde, juste parce qu'ils ont levé la main, qu'ils vont passer à travers le feu, c'est pas du tout ce que le texte dit quand on regarde dans son contexte, quoi. Absolument pas. Le texte n'exclut pas l'obéissance, au contraire. Pas de problème, écoute, t'es gêné, t'es timide, même si Dieu t'a pas donné l'esprit de timidité, tu veux rester dans l'Église, tu veux rester chez toi la semaine, tu veux rester dans l'Église, tu veux pas dire un mot de l'amour que Dieu a manifesté pour toi, pas de problème. Tu veux pas que tes dons servent à l'avancement à faire grandir, à faire progresser tes frères en Christ dans l'Église. Tu veux pas que tes dons servent à faire progresser le royaume de Dieu à l'extérieur. Pas de problème. Tu vas sentir le feu de l'enfer te chauffer les fesses. OK, pas de problème si tu veux te contenter de ça. Mais Paul dit que ceux qui veulent les servir, qui veulent utiliser leurs dons ici, les portes du royaume des cieux vont leur être largement ouvertes. Largement ouvertes. Moi, je voudrais pas arriver en haut. C'est une image, hein. Je voudrais pas arriver en haut puis voir les portes presque fermé, il va être devoir forcer pour être capable d'y rentrer, quoi. Et pas être sûr, quoi. Mais Seigneur, quelle bonne nouvelle ici. Le Seigneur, il nous dit que si on marche dans la vérité, que si on marche dans la sanctification, les portes du royaume des cieux vont nous être largement ouvertes et on va entendre le Seigneur qui va nous dire, viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la présence de ton maître. Amen. J'aime mieux entendre ça que dire, écoutez, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité, quoi. Arrière de moi. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Rudyard Kipling a dit un jour, n'accordez pas trop de prix à la célébrité, la fortune ou le pouvoir, car un jour vous rencontrerez quelqu'un qui s'en moquera éperdument. Et vous découvrirez alors combien en réalité vous êtes pauvre. Frères et sœurs, partout où nous voyons l'expression « en Christ » dans les Écritures, cette expression, elle fait référence aux élus de Dieu qui sont unis à Christ, ceux qui sont nés de nouveau, et qui sont impliqués dans un plan qui était dans l'Esprit de Dieu avant même la fondation du monde et qui est toujours en vigueur aujourd'hui. C'est pourquoi ceux qui sont élus de Dieu sont des gens qui sont très précieux aux yeux du Seigneur et qui n'ont rien à craindre, parce que Dieu est avec eux. Ésaïe, chapitre 43, versets 4 et 5. Tournez avec moi, Ésaïe 43, 4 et 5. Écoutez, c'est un passage qui parle d'Israël, mais on peut très, très bien le ramener à chaque individu, puisqu'Israël, c'est chaque Israélite qui fait partie du peuple d'Israël, mais ça s'adresse aussi au nouvel Israël de Dieu, hein, qui est l'Église. Et ici, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé au Jacob, celui qui t'a formé au Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Et là, il parle de tempête, il parle de choses qui peuvent vous arriver dans la vie. Il dit, verset 3, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Et là, il dit, je te donne l'Égypte, ainsi de suite. Verset 4, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples à toute la vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Frères et sœurs, on a du prix aux yeux de Dieu. Et le prix, la valeur qu'on vaut aux yeux de Dieu, eh bien, c'est à la croix. C'est à la croix. C'est pas une question d'argent, c'est une question d'individu. Dieu, c'est incarné dans la personne de Jésus-Christ. Il dit, je vais te montrer la valeur que tu vaux pour moi. Je vais me sacrifier. Je vais me sacrifier à la croix pour toi, pour tes péchés. Je vais prendre sur toi le jugement qui t'attendait pour tes péchés. Je vais prendre la condamnation sur moi parce que je t'aime. Et frères et sœurs, à chaque fois que vous voyez le mot aimer, aujourd'hui, le mot aimer, on dit à tout le monde que Dieu les aime. Le mot aimer, il est galvaudé. Et la seule fois qu'on devrait parler aux gens que Dieu les aime, c'est toujours, toujours en référence avec la croix. Toujours. On a des gens qui baignent dans le péché, on entend des chrétiens qui leur disent, c'est pas grave, Dieu t'aime. Non. À chaque fois qu'on dit que Dieu t'aime à quelqu'un, parce qu'il est mort pour toi. Dieu t'aime, il a sacrifié sa vie pour toi. Dieu t'aime parce que tu étais perdu. Et Dieu est devenu sur la terre pour te sauver. On mélange le Dieu t'aime, on met l'amour de Dieu, on enveloppe dans tous les attributs et le caractère de Dieu. Il faut dire Dieu est bon, il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants, il fait lever le soleil sur les justes comme sur les injustes. Dieu est fidèle, ce qu'il promet, il va l'accomplir. Dieu est loyal, il ne t'abandonnera jamais. Dieu est grand, tu ne peux pas calculer la puissance, il tient l'univers dans ses mains. Et quand on parle uniquement de l'amour de Dieu, regardez les versets dans la parole dans le Nouveau Testament. Quand vous parlez de l'amour de Dieu, c'est toujours en référence avec Jésus-Christ, avec le sacrifice que Jésus a accompli. Il y a des gens qui baignent dans le péché, on dit, c'est pas grave, Dieu t'aime. Pas grave. Non. Ça, c'est pas le message de l'Évangile. Et là, on court-circuite le message de l'Évangile. Ouais. Quand quelqu'un dit, écoute, moi, je veux rien savoir de Dieu, ben, tu peux savoir à quel point Dieu t'a aimé, toi. Tu dis ça parce que tu sais pas que Dieu t'aime. Si tu savais que Dieu, écoute, tellement aimé, qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, tu comprendrais jusqu'à quel point Dieu t'aime. Dieu t'aime ce matin. Combien tu te mettrais à genoux? Combien tu prierais, tu louerais le Seigneur? Et des prières de reconnaissance et d'action de grâce. Et rends-lui gloire qu'il t'a aimé le premier. Et si tu l'aimes ce matin, c'est parce qu'il t'a aimé le premier. Il n'a pas attendu que tu l'aimes pour t'aimer. Il t'a aimé le premier. Ouais. Et il l'a démontré à la croix. Ça, c'est l'amour de Dieu. Et voilà pourquoi la prédication de la croix doit être au centre de tous nos messages. Sinon, on galvaute l'amour de Dieu, il se promène partout, sauf où elle doit être, à la croix. C'est là que Dieu manifeste son amour. Et c'est là qu'on doit revenir. Ouais. Vous vivez dans le péché, vous avez des problèmes, venez pas me voir, allez voir le Seigneur à la croix. Il vous aime. Dans Hébreux, on nous dit que Dieu est encore sur son trône, assis sur son trône de grâce, là où vous pouvez trouver le pardon. Venez confesser vos péchés. Autre Jean, dans sa première épître, nous dit que c'est une exception que le chrétien pêche. Si vous péchez, pas quand vous péchez, si vous péchez, confessez vos péchés, mes fidèles, juste pour vous pardonner tout péché. Tout. C'est ça qui est extraordinaire. Dieu est sur son trône. Encore une fois, c'est le trône de grâce, pas un trône de jugement. Pas encore. Et Dieu est là pour attendre que ses enfants qui ont péché viennent le retrouver. Il nous demande pardon. Si vous péchez, nous dit l'apôtre Jean, si vous péchez, vous pouvez avoir l'assurance que si vous vous présentez devant lui, il ne vous rejettera pas parce qu'il ne rejette personne qui vient à lui. Et si vous confessez votre péché, avec une conviction sincère de ne plus recommencer, Dieu va effacer vos péchés. Amen. L'apôtre Pierre ici dit, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit afin qu'ils deviennent obéissants. Et la sanctification, c'est ce processus par lequel nous sommes mis à part pour obéir à Dieu afin d'accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Maintenant, comment Dieu s'y prend-il pour accomplir cette œuvre de sanctification à travers nous? Comment Dieu s'y prend-il pour nous amener à obéir? C'est pas juste à travers les épreuves, parce qu'on a vu il y a deux semaines que les épreuves, ça sert simplement à évaluer, à tester la valeur de notre foi. Comment Dieu, à travers son esprit, par son esprit, peuvent-ils nous amener à obéir? Frères et sœurs, il n'y a pas de secret, il faut lire la parole. Vous pouvez penser que ce que vous faites n'est pas mal, vous lisez la parole, le Saint-Esprit dit, écoute, ça c'est pas de moi. Voici maintenant ce qui est de moi. Voici ce que je veux nettoyer en toi. Voici ce que je veux enlever pour que tu grandisses et que tu ressembles davantage à la personne de Jésus. Le travail de sanctification, autant la justification est par la foi, autant la sanctification, elle est par la foi. La sainteté que Dieu veut vous donner, vous faire vivre, c'est la sainteté de Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit sa vie en moi. Souvent, en tant que chrétien, on tombe dans le piège d'accepter la justification par la foi. Mais on veut se racheter et on commence à faire des œuvres par nos propres forces. La sanctification, elle est aussi par la foi. Seigneur Jésus, accomplis en moi tes œuvres de sainteté. Accomplis en moi, Seigneur, les œuvres que tu veux que j'accomplisse, Seigneur. Agis à travers moi. Mais c'est pas, Seigneur, regarde-moi aller, tu vas voir comment moi je suis un champion et comment moi, Seigneur, je vais aller chercher des âmes pour toi, comment moi je vais mettre des ministères sur pied. Ça, c'est par nos propres forces. Et il y a combien de serviteurs de Dieu qui sont tombés dans ce piège et qui finalement ont complètement non seulement quitté le ministère, qui ont abandonné leur foi, quoi. La sanctification, c'est aussi une question de foi. C'est le Saint-Esprit qui habite en nous, qui travaille et qui nous amène à accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous avant même la fondation du monde. Et là, c'est ça le repos de la foi. C'est ça le repos de la foi. Vous avez une tentation? On parle le mercredi, vous avez une tentation. Si vous luttez pour essayer de résister à cette tentation-là, vous allez tomber. Mais si vous réalisez que par la foi, Christ habite en vous par son esprit, vous êtes esclave d'un péché, vous luttez depuis des années, vous n'êtes pas capable de vaincre ce péché-là parce que c'est par vos propres forces. Mais Christ habite en vous. Et là, vous dites, Seigneur, cette tentation-là, tu l'as affrontée parce que la Bible nous dit que tu étais tenté en toutes choses. Regardez bien le repos de la foi, c'est différent. On est là, on lutte, hein? On lutte. Il y a des images qu'on regarde qu'on ne devrait pas voir, on est là, hein? Oui, mais tout se passe dans la tête, hein? Tout se passe dans la tête. Tu n'as pas besoin d'avoir tes yeux pour voir. Hein? Dans la tête, ton fantasme. Hein? Tu n'as pas besoin de voir. Hein? Et là, vous luttez. Et plus vous luttez, plus vous alimentez la tentation. Et plus vous allez tomber tôt ou tard. Là, vous sortez de là, vous sortez, vous transpirez, vous allez transpirer. Ah, ce soir, j'ai réussi. Ah, j'ai pas hâte à demain, quoi. C'est une autre journée. Pour recommencer, quoi. Mais là, regardez le repos de la foi, la tentation, elle vient. Et là, la Bible, hein, vous vous basez sur la parole, puisque vous connaissez la parole, vous dites, la Bible dit que Jésus a été tenté en toutes choses. Donc, cette tentation-là que moi, je dois affronter, ce péché-là que le diable ramène toujours devant ma figure me faire tomber, Christ l'a vécu. Mais la parole me dit, il n'a jamais péché. Il n'a jamais tombé. La tentation, elle vient. Un peu, c'est le diable. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. En Christ, c'est ça, en Christ. En Christ, en étant unis en Christ. Seigneur Jésus, Toi, tu sais comment résister à cette tentation-là. Toi, tu sais comment la repousser, Seigneur. Seigneur, je te donne le mandat de t'en occuper. Et déjà, quand vous dites ça, hein? Ah! Fais du bien, quoi. Il lutte. Il lutte d'avance pour vous. Qu'est-ce qui se passe dans l'ancien Israël? Seigneur, il dit, je combattrai pour vous. Le Seigneur est le même hier, aujourd'hui, éternellement, dans le Nouveau Testament. Il combat toujours pour vous. En Jésus-Christ. Le problème, c'est qu'on met en Jésus-Christ de côté et on y va en nos propres forces. Et à chaque fois, on tombe. À chaque fois. Paul dit dans Romains chapitre 7 que c'est les péchés qui habitent en lui. Les péchés qui habitent en lui. On ne rentrera pas en détail avec Romains 7. C'est le péché qui habite en lui. Bon, comment faut-je dire ça maintenant? Quand vous êtes né de nouveau, le péché qui habite en vous, c'est l'Esprit Saint qui vient prendre la place du péché qui occupait la place dans votre cœur. Ça n'empêche pas la nature humaine d'agir, de travailler pour vous faire tomber. Mais l'Esprit qui est à l'intérieur de vous est beaucoup plus puissant que l'Esprit qui est à l'extérieur. Et cet esprit-là, en Christ, est capable de vous amener à vaincre toute forme de tentation et toute forme d'esclavage d'un péché que vous traînez depuis des années. On a de beaux témoignages à l'étude biblique des gens qui, ça fait 30 ans, qui sont coincés avec des péchés, qui ont été délivrés quand ils ont compris ce principe-là. Et ils tombent des nues de voir comment c'est facile d'abandonner un péché dont ils ont été esclaves pendant 30 ans parce qu'ils ont arrêté de lutter et qu'ils ont donné l'autorité à Christ de lutter à leur place parce que lui, il a vaincu ce péché-là. Parce que lui, cet esclavage-là, il l'a vu quand il était ici. Et il sait comment. Il sait comment. Et frères et sœurs, on voit, c'est ça le repos de la foi, quoi. Et ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Maintenant, tout ça, c'est en fonction de comment vous percevez Romains 7. C'est à travers sa parole, et c'est l'Esprit à travers sa parole qui sanctifie nos vies. Il est le consolateur, l'Esprit de vérité qui vous conduit dans toute la vérité. Dieu ne nous a pas donné sa parole pour nous tromper. Dieu n'est pas menteur comme les hommes. Dieu nous a donné sa parole pour nous conduire dans la vérité. C'est la seule façon d'être sanctifié, c'est de connaître la vérité. C'est de connaître celui qui est la vérité. Il parle encore à nos cœurs ce matin. Il ne parle pas de sa seule autorité, le Saint-Esprit. Il dit ce qu'il a entendu de Dieu, nous dit Jésus dans Jean. Le but de Dieu en nous donnant sa parole, ce n'est pas de nous montrer seulement ce qu'il ne voit pas dans nos vies et comment nous devrions vivre. La Bible emploie différentes images. Pardon, Dieu nous a donné sa parole pour transformer radicalement nos existences. Moi, il y a une phrase qui m'a marqué de John Wesley, c'est la suivante. Le privilège du chrétien, c'est la délivrance du péché. Le privilège du chrétien, c'est la délivrance du péché. Il n'y a aucune religion qui peut afficher ça dans son Église. Ça, c'est le christianisme qui prêche la nouvelle naissance. C'est le christianisme qui prêche la croix. C'est le christianisme qui prêche encore que Dieu est capable de faire des miracles dans la vie des gens, de bouleverser les vies aujourd'hui. Qui est capable de faire d'un pécheur, qui est capable d'en faire un héros de la foi, un représentant digne du royaume de Dieu, un ambassadeur pour proclamer ce qu'il reçoit du royaume de Dieu. Un ambassadeur qui est capable de parler de l'espérance vivante qu'il a reçue dans son cœur. Et qui, à travers cet ambassadeur, Dieu va toucher les cœurs. Christ va convaincre de péché, de justice et de jugement. Il va amener ces gens à se rajouter en grand nombre au royaume de Dieu. Le privilège du chrétien, c'est la délivrance du péché. Je ne suis pas en train de remettre votre salut en question. Mais si vous avez des problèmes avec le péché, la délivrance sur un péché, replongez dans vos écritures, dans l'Écriture, Dieu a la solution pour vous en délivrer. Parce que le privilège du chrétien, c'est la délivrance du péché. Amen. Ouais. Frères et sœurs, je le répète, hein, si simplement lever la main, accepter Jésus et avoir dans notre cœur une conviction que nos péchés sont pardonnés et qu'on va aller au ciel quand on va mourir, mais que ça ne change rien dans notre vie, ben moi je retourne dans le catholicisme parce que c'est exactement ce que je vivais, quoi. Non, le vrai christianisme, c'est un miracle, c'est le miracle de la nouvelle naissance, et ça bouleverse vos vies, quoi. Il y a quelqu'un qui va mourir à quelque part et c'est l'ancien Jacques, quoi. Il meurt. Il est détruit, quoi. Détruit à la croix, quoi. Crucifié avec Christ, nous dit l'apôtre Paul. Ouais. Ouais. Et même si la nature humaine essaie de le faire revivre, de le ressusciter, le nouveau Jacques, dont le Saint-Esprit habite en lui, est capable de dire, écoute, va te coucher encore dans ton cercueil. Cette vie-là, j'en veux plus. Et quand je le laisse se ressusciter et régner dans ma vie, c'est parce que j'ai agi par mes propres forces. Et à chaque fois, je vais tomber. Le Seigneur, ce qu'il veut, c'est nous donner la victoire à chaque fois. Convaincu de ça, frères et sœurs? Amen. Privilège du chrétien, c'est la victoire sur le péché. La Bible emploie différentes images pour parler d'elle. Par exemple, elle se compare à un marteau, une épée, un glaive à double tranchant. Tous ces outils sont destinés à produire un changement radical dans nos vies. Ces images d'épée, de glaive à double tranchant. C'est faire un changement radical dans nos vies. Dieu veut que sa parole change nos vies de façon spectaculaire. Souvenez-vous que si Dieu vous appelle à faire une chose, il vous équipera également pour l'accomplir, S'il existe dans votre vie des choses qui ne le glorifient pas, Dieu vous a donné son esprit qui a la puissance nécessaire pour les vaincre afin que vous puissiez vivre dans la sainteté et jouir de la vie abondante qu'il a pour vous. Et en tant qu'élu, Dieu faisant partie de son plan éternel, ayant été sanctifié, c'est-à-dire mis à part pour lui obéir, en croyant la vérité, vous pouvez vous attendre qu'un tel privilège comprenne certaines responsabilités. On va terminer avec ça. Dieu s'attend à ce que ceux qu'il a choisis lui obéissent. Amen? Ah ouais. Les gens du monde qui sont dans le royaume des ténèbres, ils lui obéissent pas, ils le connaissent pas, quoi. Même s'ils font de belles œuvres, je prends Bernard Kouchner qui a fait Médecins sans frontières. Bon. C'est pour ça que je suis pas calviniste à 100%, quoi. Moi, je pense que le calvinisme met de côté la conscience de l'homme. La conscience de l'homme, la Bible nous dit dans Proverbes que c'est la lampe que Dieu a donnée dans le cœur de l'homme pour sonder les profondeurs de son âme. Et moi, je pense que Bernard Kouchner, s'il fait des bonnes œuvres, même s'il est athée, eh bien, il ne veut pas gagner son ciel puisqu'il ne croit pas quelque chose de l'autre côté. Et il ne va pas chercher non plus la gloire de Dieu puisqu'il ne connaît pas Dieu. Mais il le fait pour se glorifier lui-même. Et chaque être humain dans le monde qui fait des belles œuvres, des œuvres charitables, c'est jamais pour la gloire de Dieu parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, donc c'est pour leur propre gloire. C'est pour espérer un jour peut-être qu'on ait un nom de rue qui soit à leur nom, qu'il y ait un buste qui apparaisse dans un parc, et ainsi de suite. Mais c'est jamais pour la gloire de Dieu puisqu'ils ne le connaissent pas. Ils ne le connaissent pas. Hein? C'est ce que Paul parle dans une de ses épîtres, quoi. Hein? Ouais. Mais nous, on connaît Dieu. Et nous, on est là, on a été choisis pour lui obéir, non seulement pour lui obéir, mais aussi pour le glorifier en toutes choses. Chapitre 2, 11, 14. Car Dieu a révélé sa grâce, source de salut pour tous les hommes, c'est-à-dire Jésus-Christ. Elle nous enseigne à renoncer à une vie mauvaise et aux convoitises mondaines, c'est-à-dire aux désirs terrestres, pour vivre dans ce monde une vie respectueuse, juste et fidèle à Dieu, en attendant l'heureux jour que nous espérons. Paul appelle ça la bienheureuse espérance. La bienheureuse espérance. Celui où apparaîtra la gloire de notre grand Dieu sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous racheter de toute iniquité, pour nous délivrer de tout mal et faire de nous un peuple purifié qui lui appartienne à lui seul et qui soit zélé pour accomplir de bonnes œuvres. Et frères et sœurs, Paul continue en disant, il nous a sauvés non pas parce que nous aurions accompli des œuvres justes, mais selon sa miséricorde et en d'autres mots, parce qu'il a eu pitié de nous. Ah! Oui, heureusement que le cœur de Dieu est amour. Il a eu pitié de nous. Heureusement que Dieu n'est pas rancunier. Parce que la rancune, ça amène l'amertume, hein? Ça amène la rancune, ça amène la vengeance. S'il fallait que Dieu commence à se venger de tout ce qu'il voit, il serait déchaîné, quoi. Tout serait bousculé. Hein? Il y a un petit astéroïde qui est tombé en Russie cette semaine. On en parle déjà depuis 4 jours. Ouais. S'il fallait que Dieu commence à brasser un peu l'univers, ce serait épouvantable, quoi. S'il fallait que Dieu s'énerve 1/1000000ème de seconde, ce serait épouvantable. Il n'y a plus de vie qui existerait, quoi. Ouais. Heureusement que Dieu n'est pas rancunier. Heureusement que Dieu... Dieu est miséricordieux. Le Saint-Esprit nous garantit les biens que Dieu a réservés à son peuple et nous assure que nous les posséderons quand notre délivrance sera complète. Et cette bénédiction qui nous attend est seulement une parmi plusieurs autres bénédictions que Pierre mentionne dans son épître. Tourne avec moi dans 1 Pierre chapitre 1, versets 4 à 5. Ça, c'est une bénédiction. Pierre parle d'un héritage qui nous attend dans les cieux. Un héritage qui vous est réservé dans les cieux. Et il dit, ce sont des biens qui ne peuvent ni se gâter, ni se salir, ni perdre leur éclat. Et Dieu les réserve pour vous que sa puissance garde par la foi jusqu'à ce que vienne le salut, prêt à être révélé à la fin des temps. 1 Pierre 1:9. Il nous rappelle que nous allons obtenir ce qui est le but de notre foi, le salut de nos âmes. 1 Pierre 2:25. Il nous rappelle que Jésus est le berger, le gardien de vos âmes. Alors, 1 Pierre 5:7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin lui-même de vous. Extraordinaire. Et quand il est monté au ciel, il aurait pu dire, bon, je n'ai assez fait, quoi, je me repose jusqu'à ce que je revienne. Mais non, il est assis à la droite de Dieu et il intercède. Il intercède pour chacun de nous. Il connaît nos combats, il connaît nos difficultés, il connaît nos soucis. Il intercède à partir du moment où vous commencez à prier pour lui faire connaître vos besoins. Dieu agit dans la vie des chrétiens uniquement en fonction des prières que les chrétiens lui adressent, uniquement. Si vous ne priez pas, si votre vie de prière est inexistante, vous ne recevez rien de Dieu, c'est biblique ce que je vous dis là. Dieu agit dans la vie d'un croyant uniquement en fonction des prières que son enfant lui adresse. Vous faites bouger le trône de Dieu quand vous adressez vos prières à Dieu, parce que vous lui donnez autorité d'agir dans vos vies et dans la vie des autres. Dieu agit uniquement en fonction des prières que vous lui adressez, frères et sœurs. Alors, si vous avez des problèmes ce matin, si vous avez des soucis, c'est bon d'en parler avec vos frères et sœurs, mais faites-les d'abord connaître à Dieu. Faites-les d'abord connaître à Jésus-Christ, qui va intercéder auprès du trône de la grâce de Dieu. Et là, Dieu vous conduira peut-être après vers un frère, une sœur qui a la solution. Ou Dieu interviendra directement dans vos vies. Mais faites d'abord connaître vos besoins à Dieu. Si jamais vous pensez que Dieu ne peut pas vous utiliser parce que vous regardez encore à ce que vous êtes ou ce que vous avez fait, souvenez-vous de ces personnes à travers qui Dieu a fait de grandes choses. Il a béni Noé. Il a béni Noé en le sauvant du déluge. Et Noé, à un moment donné, a trouvé le moyen de se saouler. Et Dieu ne pourra jeter. Il a appelé Abraham, malgré son âge avancé. Abraham, tu n'as peut-être pas confiance en toi parce que tu commences à être vieux. Mais moi, j'ai confiance en toi parce que c'est moi qui vais agir à travers toi. Abraham, ta femme ne peut pas avoir d'enfant. Non seulement elle ne peut pas en avoir parce qu'elle est trop vieille, mais en plus, elle est stérile. Fais-moi confiance. Il n'y a rien qui est impossible. L'année prochaine, je vais revenir et Sarah a un fils. Abraham, toi, tu es trop vieux. Tu penses que ta semence est morte à travers toi. C'est toi qui vas féconder ta femme et qui vas donner un enfant. Je suis le Dieu de l'impossible. Amen. Isaac rêvait de jour. Jacob mentait. Dieu l'a quand même utilisé. Il est devenu Israël, passé par une nouvelle naissance. Ton nom, c'est plus Jacob, c'est Israël. C'est plus du tout la même personne. Léa était détestable. Moïse était un meurtrier comme David et Paul. Gédéon était un peu heureux. Et quand vous lisez l'histoire de Gédéon, ça me fait rire. Moi, l'ange de l'Éternel qui arrive devant Gédéon, qui se cache. Il se cache, il a peur. Et là, le Seigneur dit, « Salut, vaillant héros! » Hey! Il semble voir Gédéon. Oui. Tu vas devenir un vaillant héros à cause de moi. Moi, je vais agir. Et même s'il n'y avait pas la foi, pensez à la toison. Pensez à ce qu'il a placé devant le Seigneur. Ah, Gédéon, c'est pas le gars qui est parti. Ouais, je l'ai la foi. Et même si même si Dieu savait qu'il finirait sa carrière comme fabricant d'idoles, Dieu l'a utilisé, quoi. Ouais. Mais Dieu qui a pitié de ses enfants. Ouais. Heureusement que Dieu ne passe pas son temps à nous cracher dans le visage comme trop souvent il fait. À pas nécessairement vivre une vie comme il nous le demande. Ouais. Dieu, il a pitié de ses enfants. Dieu nous aime. Et Dieu a constamment en tête la croix. Constamment. Ce que Christ a accompli pour nous. Constamment. Pensez à Samson qui a fait ses 4 volontés. Il y avait des belles femmes en Israël. Il est allé en choisir ailleurs, quoi. Les femmes du monde. Pensez à Rahab qui était une prostituée. Dieu l'a utilisé. Jérémie, Timothée qui était trop jeune. David qui a eu une relation adultère. Élie qui a eu des tendances suicidaires. Jérémie qui était dépressif. Jonas qui a cherché à fuir loin de Dieu. Naomi qui était veuve. Job qui a tout perdu. Jean-Baptiste qui mangeait des sauterelles. Pierre qui piquait des colères. Les disciples se sont endormis pendant que le Seigneur Jésus priait. Marthe qui se faisait trop de soucis. Marie-Madeleine qui était possédée par des démons. Le garçon aux 5 pains et 5 poissons, qui était un parfait inconnu, qui l'est toujours resté. La Samaritaine qui avait couché avec plusieurs hommes. Zachée qui était trop petit. Pierre qui était trop impulsif. Marc qui a abandonné Paul dans son ministère. Timothée qui avait un ulcère à l'estomac. Et le reste. Et Lazare qui était mort. Dieu a manifesté sa gloire à travers chacune de ces personnes. Et Dieu veut manifester sa gloire à travers chacun de ses enfants ce matin. Peu importe votre handicap, peu importe vos défauts, Dieu vous voit à travers la personne de Jésus-Christ ce matin et il veut manifester sa gloire à travers ses enfants. Ce monde, la solution à ce monde se trouve dans l'Église de Jésus-Christ. C'est la proclamation de l'Évangile. S'il n'y a pas un réveil spirituel dans les prochaines années, ça va être invivable dans le monde dans lequel on vit. Les gouvernements n'ont plus de solution. On peut lire exactement ce qui est écrit dans la parole. La méchanceté grandira sur la terre et le mal se répandra. Partout. C'est exactement ce qu'on vit. Et Dieu veut vous utiliser ce matin. Dieu veut vous utiliser comme canal pour pouvoir transporter ce message d'espérance, ce message de délivrance à ce monde qui est perdu. Dieu ne vous demande pas de connaître la parole par cœur. Dieu vous demande de laisser agir celui qui est la parole dans vos vies pour que des cœurs puissent être touchés, pour que vos enfants, s'ils ne sont pas sauvés, puissent recevoir la personne de Jésus-Christ. Frères et sœurs, même si les chrétiens doivent se considérer comme étant des pèlerins, des étrangers vivant dans un monde qui n'est pas le leur, ils ne sont pas à plaindre car par la grâce de Dieu et leur obéissance à l'Évangile de Jésus-Christ, ce sont des élus de Dieu. Ouais. Merci Seigneur ce matin d'avoir fait de moi un de tes élus. Merci Seigneur d'avoir fait de moi, de m'avoir choisi. Choisi. Je suis un privilégié. Merci d'avoir placé un chrétien évangélique sur mon chemin qui a osé ouvrir la bouche pour me parler du message de la bonne nouvelle qui a fait de moi un de tes élus. Il y a des gens à l'extérieur qui attendent que vous ouvriez la bouche, que vous annonciez la bonne nouvelle pour faire partie des élus de Dieu, que Dieu a choisi d'avance avant la fondation du monde, frères et sœurs. Est-ce que vous en avez une conviction dans votre cœur ce matin? Vous n'êtes pas obligé d'être des grands évangélistes, vous n'êtes pas obligé d'être des pasteurs ni des membres du conseil pour ça. Vous n'avez qu'à vivre, qu'à partager ce que vous vivez avec Jésus-Christ. Qu'est-ce que celui qui était possédé des démons lorsqu'il a été délivré, qui voulait rester avec Jésus, qu'est-ce que Jésus lui dit? Va dans ta ville. Non. Va dans ta ville et dans ta famille. Va raconter. Va raconter combien le Seigneur a eu pitié de toi et ce qu'il a fait dans ta vie. Ça, là, c'est l'Évangile pur à 100%. Là, il venait d'avoir son cours, lui, son cours d'évangélisation. Il est parti, il a fait le tour de la ville, quoi. Ouais. Dieu l'avait délivré de ses démons, quoi. Et quand on est dans le monde, on a tous des démons. Hein. On a tous des démons. Ouais. Qui sont sous une forme de péché, mais on a tous des démons. On pourrait mettre des noms sur nos démons, quoi. Et c'est ça que Dieu veut qu'on aille à l'extérieur. On a été délivrés parce que Dieu a eu pitié de nous à travers la personne de Jésus-Christ. Il nous a délivrés, quoi. C'est extraordinaire, non? Voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, vous avez de grandes responsabilités parce que vous êtes les bénéficiaires des plus riches bénédictions accordées par Dieu, comme par exemple le pardon des péchés et la vie éternelle. Frères et sœurs, mes amis, qu'en est-il de vous ce matin? Faites-vous partie de ceux qui sont élus de Dieu? Vous l'êtes si vous avez répondu à l'appel de l'Évangile de vous repentir et de vous convertir afin de recevoir le pardon de vos péchés. Dieu ne veut qu'aucun ne périsse, mais il veut que tous parviennent à la repentance. Si vous n'avez pas encore accepté d'obéir à l'Évangile de Jésus-Christ ce matin, faites-le maintenant, particulièrement en vue de ce que Pierre et Paul affirment. Le moment est arrivé où le jugement commence et c'est le peuple de Dieu qui est d'abord jugé. Or, si le jugement débute par nous, comment s'achèvera-t-il lorsqu'il frappera ceux qui refusent de croire à la bonne nouvelle de Dieu? Il viendra dans un feu flamboyant pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, je vous invite à faire l'exégèse de ce texte-là. Pour punir, il va venir pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu, les païens, et pour ceux qui n'obéissent pas à la bonne nouvelle. Je vous invite à faire l'exégèse de ce texte-là dans le grec. Là, il parle des chrétiens de nom. D'abord, les gens du monde qui ne connaissent pas Dieu, et ceux qui se disent chrétiens et qui n'obéissent pas à la parole. Et un jugement. Faites l'exégèse si vous n'êtes pas convaincus. Ils subiront comme punition une ruine éternelle, loin de la présence du Seigneur et loin de sa puissance glorieuse, lorsqu'il viendra en ce jour-là pour être honoré par tous ceux qui lui appartiennent et admiré par tous ceux qui croient. Vous serez vous-même parmi ceux-ci, car vous avez cru au message de l'Évangile. Et j'ai cru, et je démontre comment j'ai cru, en mettant en pratique ce que Dieu me demande de mettre en pratique. C'est pourquoi, mes amis, en attendant son retour, où Dieu a promis un nouveau ciel et une nouvelle terre, où la justice habitera, en attendant ce jour, faites tous vos efforts pour être trouvés par lui sans tâche et irréprochables aux yeux de Dieu et être en paix avec lui. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et nous a donné par sa grâce un encouragement éternel, 2 Thessaloniciens 2:16, je suis en train de vous citer un verset, un encouragement éternel. Ah, c'est extraordinaire ça. Ah, hey, encouragement éternel. Le salut, il est éternel. On va recevoir la vie éternelle dans un royaume éternel. Ah, c'est extraordinaire. Remplissez vos cœurs de courage et vous accorde la force de pratiquer tout ce qui est bien en action et en parole. 2 Thessaloniciens 2:16. Amen.